Bonjour à chacun. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble, d'ouvrir la parole de Dieu, un privilège d'écouter encore aujourd'hui ce que Dieu a à nous dire. On continue dans le livre de Néhémie. Pour ceux qui nous rejoignent, Néhémie raconte l'histoire d'un homme qui porte le nom de Néhémie et qui retourne dans son pays, le pays de ses ancêtres, dans la ville de ses ancêtres à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Et pendant les premiers chapitres du livre, on a le récit de cette reconstruction, de ces obstacles, de ces hommes qui voulaient l'empêcher, de la manière dont Néhémie, avec courage, détermination et confiance en Dieu, a mené les travaux et a conduit le peuple à reconstruire cette muraille. Et à partir du chapitre 8, on a quelque chose qui se passe. Tout le peuple s'assemble, nous dit-on, comme un seul homme, pour entendre la loi de Dieu. Une heure et demie, c'est un peu long, mais eux, ils sont restés debout 3 heures. 3 heures à écouter la parole de Dieu et 3 heures à confesser leurs péchés. Et la semaine dernière, c'est Jean-Jacques qui nous a raconté l'histoire de cette lecture, de cette confession des péchés. Et le chapitre se terminait sur une note un petit peu triste. Le peuple disait « Nous sommes dans une grande détresse ». C'est les mots avec lesquels se concluait le chapitre 9. Le peuple confesse sa détresse. Mais pourquoi ? Pourquoi une telle angoisse ? Le peuple s'était rassemblé pour écouter la loi de Dieu, pour confesser ses péchés. Et quand on racontait l'histoire du peuple, le peuple voyait avec force à la fois la justice et la bonté de Dieu, mais aussi la rébellion et la révolte du peuple. Et le peuple est dans la détresse à la fin de ce chapitre 9. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est responsable de ce qui lui est arrivé. Il a remarqué dans cette histoire qui lui a été re-racontée combien Dieu est patient. Et à chaque fois, fait grâce, fait grâce, fait grâce, fait grâce. Mais comment le peuple à chaque fois échoue ? Échoue, échoue, échoue. Et il montre comment, à cause de sa rébellion, Dieu envoie les châtiments qu'il avait promis sur son peuple. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie. À la fin du chapitre 9, on va regarder quelques versets ensemble. Si vous avez une Bible blanche à 2 euros, c'est à la page 340. Ça se moque. Regardez chapitre 9, verset 33. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité alors que nous avons été coupables. Et ça continue au verset suivant. Le peuple reconnaît que ce qui lui arrive est juste parce que c'est lui qui a été infidèle. Il dit, tu nous faisais du bien, mais nous, on ne t'a pas servi. Résultat, maintenant, on est esclave. Et non seulement on est esclave, mais on est esclave dans la même terre que tu nous avais promise. Et pire que ça, ce sont ceux qui nous asservissent, qui profitent des biens et des produits de cette terre, cette bonne terre que tu nous avais promise. C'est pour ça que le peuple est dans le désespoir. Non seulement il se rend compte de son esclavage, mais aussi il reconnaît que c'est par sa faute qu'il est esclave, il est responsable de ce qui lui arrive. Il sait qu'il a mérité. Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir ? Comment faire après ce constat ? Comment se relever ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais lire avec vous le chapitre 10 du livre de Néhémie. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Néhémie, fils de Hakalia, le gouverneur. Sédécias, Séraja, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkija, Atouche, Shebania, Malouk, Arim, Meremoth, Abdias, Daniel, Guinéton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamin, Maazia, Bilgaï et Shemaïja parmi les prêtres. Parmi les Lévites, Josué, fils d'Azania, Binui, qui fait partie des descendants de Enadad, et Kadmiel, ainsi que leurs frères Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anan, Miché, Rehob, Ashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Odija, Bani et Beninou. Parmi les chefs du peuple, Paréosh, Pachat Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bebaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiash, Meshulam, Ezir, Meshezabéel, Tsadok, Jadoua, Pelatia, Anan, Anaja, Ozé, Anania, Ashub, Aloshesh, Pilcha, Shobek, Reum, Ashabna, Maaseja, Ashija, Anan, Anan, Malouk, Arim et Baana. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher, suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils et à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devrait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qu'il est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu aux prêtres qui font le service les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile que nous donnerons la dîme, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service, issu d'Aaron, devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Verset 1. À cause de tout cela, le peuple s'engage. Et on l'a vu, la semaine dernière, le peuple est abattu, il jeûne. Il est un peu comme dans le deuil, il est revêtu de sacs et de poussière. Il reconnaît ses fautes, il est en détresse. Mais il n'en reste pas là. Il ne reste pas sur ce sentiment-là. La tristesse doit nous pousser à la repentance. Elle ne doit pas nous pousser au repli sur soi, mais doit nous pousser à nous tourner vers Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble comment la confession nous pousse à l'action. Comment la confession fait place à la consécration. Parce que Dieu s'est engagé envers nous, nous pouvons nous engager envers Dieu. C'est le message de ce chapitre. Et j'aimerais voir avec vous comment le peuple s'engage de trois manières. Premièrement, engageons-nous à nous conformer à la parole de Dieu. On l'a lu dès le début, le peuple s'engage d'une manière très formelle. Il conclut un pacte. Dans certaines versions, il conclut une alliance. L'idée, c'est celle-là, c'est de s'engager solennellement avec serment. Il s'engage sur un document qu'il scelle. Et on voit la liste, la longue liste que j'ai citée, la liste des signataires. Tous ceux qui apposaient leur nom ont apposé leur empreinte et montré à tout le peuple, voilà, moi, en mon nom, je m'engage. Et on a entendu que le peuple s'engage sous peine de malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il disait à Dieu, si nous n'obéissons pas, fais-nous du mal. C'est tellement sérieux qu'on est prêt à encourir ton châtiment. C'est ça le sérieux de notre engagement aujourd'hui. Il s'engage à quoi ? Il s'engage à marcher dans la loi de Dieu, à respecter ses ordonnances, à suivre ses commandements, à marcher selon ses prescriptions. Et on lit même que, concernant le service du temple, le peuple s'impose des règles. Nous sommes imposés des règles. Verset 33. Et au verset 9, on a vu la cause de la punition du peuple. C'était parce que le peuple s'était éloigné de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que le peuple veut revenir à la loi de Dieu. Tout le chapitre 9 que nous a exposé Jean-Jacques la semaine dernière revient à ce refrain. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont délibérément ignoré ta loi. Ils n'ont pas obéi. Et le peuple reconnaît que c'est parce qu'il n'a pas obéi qu'il est dans la détresse. Et maintenant, il veut s'engager solennellement à revenir à la loi de Dieu. Et c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est retrouver qui est Dieu et retourner à ce qu'il veut. Et si on veut vivre ce réveil, si on veut que Dieu transforme nos vies en profondeur et en nombre, il nous faut retourner à sa parole. C'est par sa parole, c'est par l'action de son esprit que Dieu nous transforme. C'est par sa parole que Dieu nous fait naître de nouveau. C'est par sa parole que Dieu nous fait croître. C'est par sa parole qu'il nous transforme. Et on voit quelque chose de formidable dans ce texte. On voit que c'est tout le peuple qui s'engage. Les chefs du peuple, les sacrificateurs, les lévites. Mais regardez au verset 29. C'est aussi le reste du peuple, leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence. Et ici, on a la même formule qu'au chapitre 8, vous vous rappelez, où on a tout le peuple qui se rassemble, des plus petits jusqu'aux plus grands, des gens très importants comme des gens du peuple, simples. Tout le monde se rassemble comme un seul homme pour écouter la loi. Et là, tout le monde se rassemble ensemble pour obéir et s'engager à suivre Dieu. Et ils s'engagent chacun. Toutes les classes sont nommées. Ils s'engagent chacun, mais ils s'engagent ensemble. Ils s'engagent ensemble. C'est ensemble que le peuple de Dieu change. C'est les uns avec les autres. Et aussi les uns par les autres. Ceux qui étaient là hier soir l'ont déjà entendu. Ceux qui sont là depuis quelque temps l'ont aussi déjà entendu. Il y a trois ingrédients dans nos groupes de maison. Parole, prière, personne. Dieu se sert de nos frères et de nos sœurs pour nous aider à changer. Dieu se sert de moi pour aider à changer l'autre. Et Dieu se sert de l'autre pour m'aider à changer. On avance côte à côte, on avance ensemble et on est responsables les uns des autres. Si quelqu'un est abattu, je dois le relever. Si quelqu'un pleure, je dois le réconforter. Si quelqu'un s'égare, je dois le reprendre. Si quelqu'un progresse, je dois l'encourager. Dieu nous a placés les uns avec les autres pour notre croissance. Et c'est ensemble que nous grandissons. C'est ensemble que nous nous engageons à suivre les voies de Dieu et à revenir à sa parole. Et si le peuple ici s'engage pour Dieu, c'est parce que Dieu le premier s'est engagé pour lui. Et j'imagine que les plus petits ou les plus jeunes ont pu demander à leurs parents, mais pourquoi on est là? Pourquoi on reste debout aussi longtemps? Pourquoi il y a des gens qui portent des sacs? Pourquoi il y a des gens qui sont tristes? Et pourquoi maintenant on s'engage? Pourquoi tous les chefs ont signé ce document? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait là? Et je peux imaginer que certains des parents ont répondu avec ces paroles de Deutéronome 6, où Moïse avait dit, où Dieu avait dit par l'intermédiaire de Moïse, « Quand vos enfants vous demanderont pourquoi vous suivez l'Éternel, voilà ce que vous leur répondrez. Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. » Et c'est la même réponse aujourd'hui, des milliers d'années après. La même réponse que nous voulons donner à nos enfants quand ils nous demandent « Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux suivre Dieu ? Pourquoi tu veux obéir à sa parole ?» Parce que Dieu nous a délivrés. Parce qu'il nous a délivrés de notre esclavage. Parce qu'il nous a amenés dans sa liberté. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Parce qu'il est intervenu dans notre vie pour nous libérer. Parce qu'il est notre sauveur. Parce qu'il veut notre bonheur. Suivre la parole de Dieu, c'est écouter les ordonnances de celui qui nous a créés, de celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, de celui qui est parfaitement bon, en sachant que tout ce qu'il nous demande est juste. Tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. C'est juste et c'est bon. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Plus nous faisons ce que Dieu veut, et plus nous serons heureux. C'est un message qui est radicalement à l'antithèse de ce qu'on entend dans le monde qui nous entoure. Fais ce que tu veux et tu seras heureux. Mais nous savons que pour être heureux, il faut faire ce que Dieu veut. Et dernière raison, parce que c'est juste, c'est ce que dit le texte de Deutéronome 6, c'est juste de se conformer à la justice de Dieu. En faisant ce qui est juste, on reflète le Dieu qui est juste. Deuxième raison de s'engager. Deuxième motif, engageons-nous à nous séparer du péché. Il y a un lien très fort entre la semaine dernière et cette semaine, normal, entre le chapitre 9 et le chapitre 10, entre l'écoute de la parole de Dieu et ce désir du peuple de revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle à la fois son caractère et sa volonté. Et le peuple sait qu'il ne peut pas juste écouter la parole de Dieu. C'est impossible d'écouter seulement. La parole de Dieu nous invite toujours à l'action. Jésus l'a illustré très fort à la toute fin du sermon sur la montagne. Un peu comme s'il disait à tous ceux qui étaient réunis et qu'il avait écouté longuement, voilà, vous m'avez écouté. Mais en fait, si vous m'écoutez sans faire ce que je vous demande, vous êtes complètement fou. Vous êtes aussi fou que quelqu'un qui construit sa maison sur un seul meuble. Par contre, celui qui m'écoute et qui met en pratique, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est juste quelqu'un de sensé, qui fait ce qu'il doit faire. Mais m'écouter et ne pas mettre en pratique, c'est complètement fou. Et le peuple le savait. On ne peut pas écouter la voix de Dieu et rester indifférent. Sa grandeur nous pousse à l'humilité. Sa bonté nous pousse à la reconnaissance. Sa puissance nous pousse à l'émerveillement. Sa gloire nous pousse à l'adoration. Quand Dieu parle, nous répondons et nous agissons. Imaginez la rechute des six mois. La rechute des six mois, c'est quand on a pris un engagement le 1er janvier, une résolution ferme, et le 15 janvier, on l'a oublié, et six mois après, le 1er juin, hop, on a un cas de conscience, on se dit « Ah oui, c'est vrai que je m'étais dit que je devrais faire ça, je vais le faire. Je sais que je dois faire du sport. » Ça fait longtemps que je me le dis. C'est une des résolutions qui revient le plus souvent. Je dois faire du sport, je me le dis depuis souvent. D'ailleurs, c'est pas juste moi, c'est aussi ma femme. D'ailleurs, c'est pas juste ma femme, c'est aussi mon médecin. Tout le monde me dit que je dois faire du sport, je dois faire du sport. Et avec cette conviction, cette personne s'approche de Dieu et prie « Seigneur, aide-moi à faire du sport. » Amen. Et six mois après, devinez quoi ? Elle n'a pas fait de sport. Pourquoi ? Parce qu'elle a prié, mais elle n'a pas agi. Et ça nous fait sourire, mais souvent on est comme ça. On sait qu'on devrait faire quelque chose, et on demande de l'aide à Dieu. Et c'est un bon réflexe, mais on s'arrête là, on ne fait rien. Mais le peuple ici sait qu'il doit s'engager. Il sait qu'il doit s'engager à changer, et que le changement passe par l'action. Le peuple qui est là et qui est dans la détresse vit un moment de repentance collective. Alors si on regarde dans le Larousse ce qu'est la repentance, voilà la définition qu'il nous donne. La repentance, c'est le regret douloureux de ses péchés. Le regret douloureux de ses péchés. C'est vrai, mais c'est incomplet. La repentance, c'est regretter ses péchés et renoncer, s'engager à y renoncer. La repentance, c'est un sentiment de culpabilité et un engagement à changer. C'est pas juste un constat. La repentance, c'est un plan d'action. C'est un plan d'action pour ne pas recommencer. C'est exactement ce que fait le peuple ici. Il est en train de faire un plan d'action. Un plan d'action pour ne pas retomber dans tout ce qu'il a entendu juste avant. À cause de cela, à cause de tout ce que vous venez de nous raconter, à cause de cette histoire de 1000 ans où on a été rebelles, tu nous as fait grâce, on a été rebelles, tu nous as fait grâce, on a été rebelles, tu nous as fait grâce, 6 fois dans le chapitre 9. À cause de cela, on veut s'engager. On ne veut pas juste prier, on veut s'engager concrètement. On veut faire un plan d'action. C'est ça, la repentance. C'est un plan qui nécessite de la volonté et de la discipline. Un plan qui est réaliste et concret. C'est un plan que l'on partage aux frères et aux sœurs. Les responsables du peuple avaient mis leur nom. Ils s'étaient engagés. Ils s'étaient rendus redevables. N'importe qui du peuple qui voyait les responsables faire autre chose que ce à quoi ils s'étaient engagés pouvait aller les voir et leur demander « Mais j'étais là le jour où, tu sais, on s'est rassemblés, on s'est engagés, tous ensemble. Et je me rappelle qu'il y avait ton nom sur le document. Alors pourquoi tu fais pas ce que tu dis ?» C'est un plan qu'on alimente de prières. Mais c'est un plan qui ne se résume pas aux prières. Et bien souvent, nous devons faire ce que nous demandons à Dieu. On doit demander à Dieu de nous transformer, mais Dieu se sert aussi de notre obéissance pour nous transformer. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. verset bien connu. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais le verset juste avant, il dit « Mettez en action votre salut, mettez en œuvre votre salut. » Ensemble, nous voulons agir, nous voulons nous engager envers Dieu parce que Dieu s'est engagé envers nous. Il y a trois choses auxquelles le peuple s'engage. C'est à partir du verset 31. Nous nous engageons. Trois choses. Ne pas se marier avec les autres peuples. Ne pas donner nos filles aux autres peuples. Ne pas prendre des filles des autres peuples pour se marier. Deuxièmement, respecter le sabbat. Et troisièmement, respecter le repos de la septième année, qui est une espèce de sabbat, mais sur 7 ans. Donc pendant une année complète. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de séparation avec les peuples étrangers. Au début du chapitre, il en est question, au début du chapitre 9, il en est question aussi au verset 29 de notre texte. Tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu. Il y a un lien entre la séparation des peuples étrangers et suivre la loi de Dieu. Alors, pourquoi cette mention de la séparation? Pourquoi ça a un tel poids ici? Pourquoi on le répète à 3 reprises en 2 chapitres? Et si vous voulez lire aussi Esdras, à la fin du livre d'Esdras, vous verrez qu'il y a 2 chapitres consacrés à cette question également. Alors, pourquoi cette nécessité de séparation? La réponse se trouve encore dans le livre de l'Exode. Au chapitre 34, je vous lis. « Prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclue pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges, de peur que tu ne prennes pas de leurs filles pour tes fils et que celles-ci, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Le problème, il n'est pas social. Le problème, il est religieux. Le danger, c'est que les autres peuples corrompent le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, on est au pied de la montagne dans Exode 19. Le peuple arrive au pied de la montagne où il a un rendez-vous divin, où Dieu va lui adresser solennellement la parole et lui donner sa loi. On a la montagne qui fume, la montagne qui est entourée d'un nuage, où les éclairs, où le sol tremble. Et Dieu déclare solennellement à son peuple, « Je t'ai choisi, et c'est moi qui t'ai amené là. Je t'ai choisi pour que tu sois une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Israël a été sauvé pour appartenir à Dieu, pour lui être consacré, pour proclamer sa puissance et sa grâce aux autres nations. » Quand les autres nations devaient voir Israël et devaient voir sa manière de vivre, ils devaient dire « Quel Dieu glorieux ils ont !»« Quel Dieu plein de grâce les a libérés !»« Quel Dieu saint ils ont !»« Regarde leur conduite !»« Regarde leur consécration !»« Regarde leur justice !»« Regarde leur bonté !»« Quel Dieu glorieux ils ont !» C'est par sa consécration, c'est par sa sainteté que le peuple devait montrer aux autres peuples qu'il appartenait à Dieu, qu'ils étaient son peuple, qu'ils étaient le peuple de l'Alliance, le peuple qui aimait Dieu et le peuple qui lui obéissait. Et le danger, c'était vraiment l'idolâtrie. C'était que les autres peuples entraînent Israël dans l'idolâtrie. Quelque chose de tellement grave que Dieu lui-même compare ça à de la prostitution, à de l'adultère. Être entraîné à suivre un autre Dieu, c'est se prostituer pour Dieu. Et c'est ça la gravité de la, la question. Et c'est pour ça que le peuple revient à cette loi. Et Israël aurait pu dire, non mais attends, on peut tout expliquer. En fait, on se marie avec eux pour les évangéliser. On veut qu'ils se convertissent. Mais le moyen de témoigner, le moyen que Dieu donne pour que Israël témoigne de la gloire et de la grâce de Dieu, de sa puissance et de sa bonté, c'est qu'Israël soit saint. C'est qu'Israël soit entièrement consacré et que toute sa vie entière montre qui est Dieu et que le peuple lui appartient. Et le deuxième exemple le montre avec l'histoire du sabbat. Comment être entièrement consacré à Dieu quand on s'unit à des peuples qui ne respectent pas le sabbat? Alors justement, on va étudier le sabbat dans les groupes de maison cette semaine. Ça tombe bien. Et on va voir combien c'est un commandement important. Je ne vais pas tout révéler, mais juste souligner quelque chose. Si on regarde bien, ce à quoi le peuple s'engage, c'est à respecter le sabbat et à ne pas acheter de ce que les autres peuples vendaient. Et au fond, Israël aurait pu dire, non mais attends, nous on respecte le sabbat, c'est pas nous qui travaillons, c'est les autres. Nous on fait juste que acheter ce qui nous amène. On est dans les clous, si on regarde bien la loi, on est dans les clous. Mais Israël voulait respecter la loi, il voulait dépasser la lettre, il voulait respecter l'esprit de la loi. Deuxième chose, même si la question du repos est fondamentale, le sabbat dépasse cette notion-là. Le sabbat, c'était un signe de l'alliance entre le peuple et Dieu. Et consacrer le septième jour à Dieu, c'était se consacrer à Dieu. C'était reconnaître que c'est lui qui est saint. C'était mettre un jour à part. C'était séparer un jour des six autres jours pour le consacrer entièrement à Dieu. Et de la même manière qu'Israël devait être séparé des autres peuples pour être entièrement consacré à Dieu, il s'était engagé à séparer un jour pour être consacré totalement à Dieu. C'est aussi le sabbat, une marque de la confiance de Dieu. Garder le sabbat, c'est reconnaître que Dieu pourvoira. C'est reconnaître qu'il pourvoira même le jour où je ne travaille pas. C'est reconnaître que c'est lui qui gère. Quand vous vous reposez, Vous reconnaissez que c'est lui qui fait tourner le monde, que le monde ne s'arrête pas au moment où je ferme les yeux. Quand on se repose, on est en train de dire que c'est Dieu qui est aux commandes de ma vie, et c'est pas moi. Que c'est lui qui prend soin de moi, même quand moi, je ne travaille pas. Et le sabbat, c'est faire confiance à Dieu pour un jour, et pendant la relâche, c'était faire confiance à Dieu pendant un an, et même un peu plus, le temps de tout replanter, et de récolter. En fait, le peuple est en train de prendre un engagement très fort en disant qu'il veut faire confiance à Dieu, qu'il veut suivre sa loi et qu'il veut s'attendre à lui. Troisième engagement, engageons-nous à nous attacher à Dieu. La dernière partie du texte, à partir du verset 33, nous parle de la maison de Dieu. C'est une expression qui revient beaucoup de fois, ça revient 8 fois dans ces quelques versets. Et on voit dans la deuxième partie du texte que l'engagement du peuple concerne tous les aspects de leur vie. La famille, les récoltes, le travail, mais aussi le culte. Et le peuple l'a appris dans la douleur. Et cela lui a été rappelé par cette longue histoire résumée au chapitre 9. On ne peut pas s'engager à respecter la parole de Dieu sans s'engager dans une relation avec Dieu. On ne peut pas séparer sa parole de Dieu. On ne peut pas séparer notre obéissance de notre amour pour Dieu. On ne s'engage pas envers un dogme. On ne s'engage pas envers une religion. On ne s'engage pas envers un programme. On n'est pas en train de cocher les cases d'une liste de tâches. Le peuple et nous, nous engageons envers le Dieu vivant et vrai. Nous nous engageons envers le Dieu qui nous a délivrés. Celui qui nous a délivrés de l'esclavage. Celui qui nous a choisis, qui nous a sauvés alors que nous étions encore rebelles. Celui qui nous a fait grâce alors que nous étions pécheurs. C'est ce Dieu-là. C'est ce grand sauveur envers qui nous nous engageons. C'est le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui fait grâce. Et s'attacher à Dieu, ça passe par une consécration totale. C'est ce que le peuple est en train de dire, c'est ce que nous voulons reconnaître encore ce matin. Une consécration totale, ça veut dire lui consacrer ce que l'on a. Dans les derniers versets, tout le contexte, c'est la bonne gestion du temple. Et le texte souligne encore trois engagements. Payer l'impôt pour assurer le bon fonctionnement du temple. Apporter du bois pour le feu sur l'autel. Et apporter les prémices des récoltes et du bétail pour faire vivre les Lévites. Et là encore, on voit que l'engagement du peuple, c'est un engagement concret. C'est pas juste « Seigneur, j'aimerais plus m'engager envers toi. Amen. » Seigneur, j'aimerais plus m'engager envers toi. Aide-moi à voir les domaines dans lesquels je peux m'engager. Aide-moi à voir ce que je peux faire aujourd'hui. Donne-moi la sagesse. Et entoure-moi de ceux qui sont sages pour m'aider à m'engager. Ensemble, on veut s'engager. Ensemble, on veut grandir. Ensemble, on veut établir un plan d'action pour nous engager. Un engagement dans le texte à donner de manière sacrificielle. On le voit à plusieurs reprises, les Israélites devaient donner leur prémices. Ils devaient donner leur premier-né. Ils devaient donner leur premier produit de la terre. Ils ne devaient pas donner ce qu'il reste. Ils devaient donner directement ce qui sort en premier. Ça nous pose la question aujourd'hui. Comment on considère ce que l'on donne à Dieu? Comment on décide ce que l'on donne à Dieu? Encore une fois, on a ici un plan d'action concret, précis, déterminé, volontaire. Comment on décide le temps qu'on veut lui consacrer? Comment on décide de la part d'offrande qu'on veut donner? Est-ce que c'est la première chose qui part? Ou est-ce que Dieu n'a que ce qui reste? Et donner, comme le peuple s'engage à le faire, alors qu'il est dans une situation de faiblesse. La muraille est reconstruite, mais les maisons ne sont même pas reconstruites. Donner, c'est faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit. Donner aussi, c'est avoir la conviction que ce qu'on donne montre nos priorités. Et si la maison de Dieu était si importante, c'est parce que Dieu avait fixé les conditions pour entrer en relation avec lui. Et que le temple était le lieu où l'on s'approchait avec les sacrifices, mais aussi le lieu où on entendait sa parole, le lieu où on se rassemblait en tant que peuple. Et quand on lit cette insistance, cette importance de gérer le temple, on doit voir la volonté du peuple de soigner la relation avec Dieu, duquel on s'approchait au moyen des sacrifices. Mais aujourd'hui, nous avons un accès au Père par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Cet accès, il est libre. C'est Jésus-Christ notre médiateur, c'est lui qui nous permet de nous approcher de Dieu et nous attacher à Dieu, c'est se rapprocher de Christ. Pour conclure, ce texte nous montre que la confession doit mener à la consécration. Peut-être certains l'ont déjà vécu, je suis sûr que tous l'ont vécu. Peut-être certains sont en train de le vivre, peut-être qu'ils se sentent éloignés de Dieu en ce moment, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Mais on voit dans ce texte que ce sentiment doit nous pousser à nous rapprocher de Dieu. En revenant à sa parole. En prenant des engagements concrets. En nous séparant du péché. En nous séparant de ce qui nous retient éloignés de lui. En nous attachant à lui par Jésus-Christ. Mais ce texte nous montre aussi que Revenir à Dieu et lui obéir, ce n'est pas une obéissance froide. Ce n'est pas juste faire ce qu'il veut. Ce n'est pas juste cocher la case. Ok, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Non, c'est la réponse d'un cœur bouleversé à un Dieu plein de grâce. C'est ça que le peuple est en train de faire. Il a eu le cœur bouleversé de voir à la fois son péché, sa culpabilité et la grâce de Dieu. Et ce cœur bouleversé veut s'engager dans un Dieu plein de grâce. Notre obéissance est toujours une réponse à ce que Dieu fait. Jamais le moyen que Dieu agisse, mais toujours une réponse à ce que Dieu fait. Parce que Dieu s'est engagé envers nous, nous pouvons nous engager envers Dieu. Et ça, nous voulons le faire ensemble. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous guide. Merci pour ce récit du peuple qui, après la confession, a fait place à la consécration. Merci Seigneur, parce que nous savons que notre consécration, elle est possible par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est en vertu de son obéissance que nous pouvons nous approcher de nous, que nous pouvons t'obéir avec joie, par amour, dans la reconnaissance et dans la crainte de ton nom. Et Seigneur, aide-nous à être plus concrets dans la manière dont nous voulons te suivre. Aide-nous aussi à veiller les uns sur les autres. Aide-nous à prier les uns pour les autres. Aide-nous à nous encourager, à nous soutenir, à nous reprendre, à cheminer côte à côte. Parce que nous savons que cet engagement, nous voulons le vivre et nous pouvons le vivre qu'avec les frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta parole qui est non seulement le guide sûr pour notre vie, pour notre foi, le reflet de ton caractère et de ta volonté, mais aussi la source de notre joie. Oh Seigneur, rends ta parole douce à notre palais, que nous puissions en faire nos délices, que nous puissions nous y soumettre avec joie, en reconnaissant que par elle, tout ce que tu nous demandes est juste, tout ce que tu nous demandes est bon, et que faire ce que tu veux, c'est chercher à être heureux. Aide-nous à prendre des engagements concrets. Et aide-nous à vivre ce que tu nous demandes. Merci parce que tout ce que nous le faisons par grâce. C'est ton esprit qui nous conduit, c'est ton esprit qui nous rend capable de t'obéir. Et merci parce que tu nous regardes avec ces yeux de Père paternel, de Père céleste, plein d'amour, plein de bonté. Tu nous donnes ce qui est bon. Merci Seigneur. Amen.